Voilà, donc, bonjour. Enfin, si tu pouvais un petit peu reprendre la distinction que tu as fait hier soir entre le populisme communicationnel et le populisme, disons, plus traditionnel, plus orthodoxe, pour essayer de montrer un petit peu quelles sont leurs caractéristiques et puis leurs intérêts et puis les problèmes qu'ils peuvent poser.
Alors, le type de populisme qu'on a connu à travers de l'expérience de Podemos, pour concrétiser un peu l'idée, c'était, disons, construire un projet politique qui, d'un côté, est très, très axé sur le travail électoral, qui aussi concevait la politique comme une stratégie de communication. Donc, la politique, c'était essentiellement communication et pas rien d'autre. Et qui essayait aussi de créer une sorte de bloc transversal qui pourrait aller au-delà des rangs de la gauche, disons, traditionnelle.
Oui.
Je crois que ça a été utile pour essayer de sortir d'une gauche qui était très isolée, très enfermée, qui avait approché la crise d'une façon très routinaire. Mais en même temps, cette idée a finalement cristallisé dans un type de projet qui a créé beaucoup de confusion idéologique et qui finalement l'idée d'un bloc transversal ça a été une façon de théoriser une politique plus traditionnelle de catch-all party, de faire un discours modéré pour essayer de libérer le centre, etc.
Donc, est-ce que tu peux justement préciser ces caractéristiques de ce modèle qui a fini par s'imposer au-delà de la question purement communicationnelle, hein, le modèle plus sociopolitique?
Oui, alors,
qu'incarne le populisme de gauche, disons, dans Podemos.
Oui, alors Podemos, d'un côté, a défini un sort de projet dans lequel, par exemple, le seul but était de gagner les élections, c'était axé sur l'idée qu'il faut gagner. C'est bien, ça rompait avec une culture minoritaire de la gauche, c'est une culture de la défaite, mais finalement la victoire, c'était la victoire électorale. Donc il avait une vision très limitée de qu'est-ce que ça veut dire gagner. C'était pas il faut gagner politiquement dans le sens qu'on peut transformer la société, non, il faut gagner les élections. Mais, la victoire électorale, en réalité, pour moi, c'est une partie d'une idée plus large de victoire politique, sociale et culturelle. On peut gagner les élections et perdre politiquement, c'est le cas de Syriza. Donc Podemos a donné une vision très limitée de ce que ça veut dire gagner, c'est gagner une élection. Et pour gagner, et tout ce qu'on fait comme parti, c'est subordonné à l'idée qu'il faut gagner les élections. Donc finalement, le parti, c'est une machine qui fait une tactique communicationnelle qui est censée être le mieux pour gagner les élections. Donc ça veut dire que c'est pas le parti, par exemple, n'est pas comme ça, comme un outil pour mobiliser ou un outil pour faire avancer la conscience politique. C'est simplement le parti fait ce type de choses qu'on considère que sont mieux pour gagner les élections. Et par exemple, sur le plan du discours, ça veut dire que plutôt l'idée, c'est on s'adapte au niveau de conscience, on dit les choses qui marchent, pour mobiliser ceux qui sont critiques avec les finances, les marchés financiers, etc. Mais on ne dit pas des choses qui vont au-delà. Donc, les partis ne servent pas pour pousser la conscience politique, servent pour s'adapter et on essaye d'éviter les choses qui sont compliquées, disons. Non? Donc, et en plus, ça a été combiné avec une idée de la politique qui était très autoritaire. Et qui n'était pas participatif ni démocratique. C'était l'idée finalement d'une sorte de libération parano, une sorte de dépotisme illustré. C'est tout pour le peuple, mais sans le peuple. Et finalement, ça cristallisait avec un modèle de parti très hiérarchique et très vertical, qui a suivi un processus de bureaucratisation très rapide. Podemos est né déjà comme une histoire bureaucratisée, donc c'est très rapide ce processus. Et finalement, dans lequel il n'y a aucune idée d'auto-émancipation, d'auto-organisation.
Voilà, c'est ça. Parce que ça me paraît important. Le projet, au départ, Podemos paraissait un parti anti-système, en quelque sorte.
Oui.
Et en quoi le populisme de gauche risque de lui faire perdre, ou lui a fait perdre, cette dimension radicale de transformation émancipatrice?
Oui, Podemos est né de plusieurs composants qui avaient des idées différentes sur quoi faire, mais qui avaient l'idée que dans la conjoncture politique espagnole, il avait de la place pour faire des choses nouvelles. Le succès initial de Podemos, c'est surtout parce qu'il était perçu comme un parti anti-austérité, mais aussi un parti critique de la politique traditionnelle. Ça, c'est, et la figure d'Iglesias, c'était ça, un type qui est critique les banques et qui n'est pas un politicien conventionnel. Non, ça, c'était leur succès. Mais le noyau populiste a pu imposer leurs critères. Et finalement, le modèle qu'on a créé, c'est qu'ils ont appelé la machine de guerre électorale. Donc finalement, Podemos, c'est un parti qui a grandi à niveau électoral parce qu'il y avait un contexte politique de maladresse sociale, de malade sociale, etc. Mais le projet, disons, émancipateur du parti est très, très limité. Finalement, c'est un parti que la fonction, c'est on veut gouverner l'État, on veut s'insérer dans l'État. Pourquoi faire? Bon, pour essayer de faire un peu mieux, pour partager un peu plus la richesse, etc. Mmh. Mais pas pour faire de grandes transformations.
Justement, la dimension anticapitaliste n'était plus là.
Non, non. Même, je crois, ni une dimension anti-austérité forte. Ça veut dire la dimension anticapitaliste, bien sûr, ça a été écarté. Mais même l'idée de faire une sorte de réformisme radical, c'était finalement, on veut arriver au pouvoir, voilà, pour faire des choses, disons, minimales, faire des choses, disons, qui sont correctes, mais qui restent là bloquées.
Et alors, peut-être pour clore le... Quel conseil tu pourrais proposer à un parti comme Québec solidaire pour ne pas tomber dans ces travers-là?
Alors, je crois que le premier conseil, c'est étudier bien des expériences type Podemos, la France insoumise, etc. Parce que, bon, s'il y a des erreurs là, c'est mieux de ne pas les répéter une autre fois. Je crois aussi que la question de la démocratie, il me paraît centrale. Finalement, un parti qui veut démocratiser la société, c'est un parti autoritaire, qui à l'intérieur, le parti est plus autoritaire que la société, il a une contradiction. Donc, je crois que l'idée de garder une culture démocratique par rapport à l'organisation, c'est fondamental, mais aussi garder une culture démocratique de comme le parti en rapport avec les mouvements sociaux, etc. Après, je crois que l'idée de que l'émancipation doit être une auto-émancipation, l'idée typique de Marx, non, c'est le travailleur qui doit s'émanciper lui-même, etc. Je crois que c'est une idée qui reste centrale. Donc je crois qu'un parti type Québec solidaire ou n'importe quel parti à gauche doit défendre ce type d'idée et pas tomber dans l'idée de socialisme parano, disons. Et après, je crois qu'il y a aussi le fait qu'un parti, même si c'est puissant à niveau électoral, même s'il commence à avoir des élus, etc., ne peut pas être axé que sur la politique électorale. C'est un parti qui doit aussi avoir un projet d'intervenir à la société, intervenir dans les mouvements sociaux, aussi dans le monde de la culture et dans le monde intellectuel, mais pas créer finalement un appareil électoral traditionnel. Parce que finalement, Podemos est un appareil électoral comme un appareil typique. Donc je crois que nous en Espagne, dans l'État espagnol, parfois, vers le modèle machine de guerre électorale, on essayait d'opposer l'idée de parti-mouvement. Bon, parti-mouvement, ça pourrait dire n'importe quelle chose, mais moi, c'était l'idée de dire que les partis, ce n'est pas qu'une machine électorale. On veut marcher bien sur les élections, pas de problème sur ça, on veut aussi gagner les élections, mais les partis doivent être une organisation qui travaille dans la société, qui travaille dans les mouvements sociaux, qui s'est organisée, etc. Pas qu'un travail professionnel électoral. Et après, il y a toutes les choses typiques de limitation de mandat, contrôle de la direction, contrôle du groupe parlementaire, tout, disons, toutes les leçons historiques qu'on connaît du mouvement ouvrier, aussi de nouveaux partis, ça fait 30 années comme le Vert allemand. Il y a toute une histoire, non, de partis politiques à gauche qui ont suivi des problèmes de bureaucratie. Donc là, il faut prendre toutes ces leçons historiques pour éviter que ça arrive une autre fois.
Ben, écoute, avec ça, je pense que ça va être très bien. Merci beaucoup.